Parcours de coach.
Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser à une pionnière qui a commencé le coaching au milieu des années 90. Catherine Blondel a débuté sa carrière comme consultante avant de découvrir le coaching en lisant un article de presse. Très vite, elle se forme à cette technique d'accompagnement venue des États-Unis grâce à l'une des premières formations en France et, progressivement, décide d'en faire son métier. Accompagner les top managers dans de nouvelles fonctions ou au moment où ils prennent la tête d'une entreprise pour y déployer leur plan de transformation devient alors son quotidien. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez une femme volontaire et indépendante qui depuis 30 ans accompagne des clients. Elle nous partage son analyse sur l'évolution du management en France, mais également sur celle du coaching lui-même. Vous le constaterez, elle parle sans détour et assume ses prises de position souvent tranchées, mais jamais sans humour.
Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching.
Catherine Blondel, bonjour.
Bonjour David.
Te souviens-tu de ce que tu voulais devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans ?
Non, je n'en ai pas la moindre idée et je pense que je ne me posais absolument pas ce genre de questions. Mais je continue de me demander aujourd'hui ce que je ferai quand je serai grande. Donc rien de surprenant.
Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ?
On me disait vive, curieuse, mais insolente.
Insolente ?
Insolente. Mes parents, mes grands-parents, les institutrices, et je ne te parle pas des religieuses.
Tu questionnais le cadre ?
Oui, clairement. Clairement, on peut dire ça comme ça.
Quelles études as-tu fait ?
Alors, j'ai fait des études de philosophie que j'ai accompagnées d'études de lettres classiques, d'études d'allemand, puisque la philosophie était éminemment représentée en France, elle l'est toujours d'ailleurs par la langue allemande, et puis des études de sociologie, un peu d'économie aussi, à Sciences Po, et j'ai terminé 20 ans plus tard par des études de psychanalyse.
Quel a été ton premier job ?
Conseillère auprès d'hommes politiques.
Conseillère pour ?
Alors, conseillère pour le choix de la cravate chez Hermès, accompagner déjeuner dans un restaurant, faire une note sur les médias en France, préparer un argumentaire, prendre des notes à l'issue d'un déjeuner, des tas de petites choses de ce genre.
Ouais, Sherpa, quoi.
Sherpa, oui.
Comment es-tu arrivée au coaching, Catherine ?
Je suis arrivée au coaching en 1994, suite à un article lu dans les Échos, qui évoquait le coaching comme une mode venue des États-Unis, réservée aux dirigeants d'entreprise, et qui précisait que la plupart des coachs américains avaient une formation en psychothérapie ou en psychanalyse. Or, il se trouve que cette même année, je terminais une première analyse et je commençais à me lasser du conseil en tant que tel. Et je me suis aperçue que j'étais plus intéressée par les personnes que par les organisations. Donc, je lis l'article et je me dis pourquoi pas. Et il se trouve que très peu de temps après, un ami m'a parlé d'un de ses amis qui lançait une formation au coaching, probablement une des premières en France. Donc, je me suis inscrite à cette formation.
Elle s'appelait comment, cette formation ?
C'était la formation d'Olivier Devillard, de l'IFOD.
Qu'est-ce que tu retiens de la formation de coaching que tu as faite à ce moment-là ?
Trois choses m'ont marquée dans ce que j'ai appris. La première, qui me paraît vraiment importante, c'est quand Olivier Devillard a évoqué la fameuse injonction paradoxale de Gregory Bateson, que je ne connaissais pas du tout, et il a pris cet exemple de soi autonome. Cette injonction me semble parfaitement résumer une des difficultés aujourd'hui des salariés au travail. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est lorsqu'il a évoqué Michel Crozier et cette notion de marginal séquent, qui me semble aujourd'hui encore assez bien s'appliquer aux consultants en général et aux coachs en particulier. Et puis la troisième chose que j'ai apprise, c'est de fixer un prix, et un prix suffisamment élevé pour être pris au sérieux.
Est-ce que tu pourrais un petit peu développer les trois points ? C'est-à-dire que tu parlais de Bateson et tu faisais un parallèle avec les salariés aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que tu pourrais nous expliciter ce parallèle ?
Une des injonctions dans l'entreprise, c'est qu'on veut des gens autonomes. Et en même temps, me semble-t-il, jamais les procédures de contrôle n'ont été aussi importantes. Des assessments au 360. Et il arrive même assez fréquemment que le coaching, ce qui à mon avis est un mésusage, soit utilisé de manière en quelque sorte corrective. D'un côté, on demande aux gens d'être autonomes, mais de l'autre, on les contraint socialement. D'où cette injonction qui me semble paradoxale, mais d'où aussi ce qu'il est convenu d'appeler le malaise au travail.
Donc dans la deuxième partie, tu parlais de Crozier. Tu peux nous expliciter un petit peu ?
Marginal, c'est quand ce que j'en ai retenu, moi, aujourd'hui, c'est qu'un consultant, plus généralement, et un coach en particulier, est quelqu'un qui agit à la marge et qui est séquent dans la mesure où il redécoupe la réalité. où il vient éventuellement mettre le pied dans la porte, questionner. Il contribue à hauteur même de ce qu'il critique ou met en question. Ça me semble clé pour exercer ce métier.
Et ensuite, dernier point, tu parlais d'un prix suffisamment élevé pour être crédible. Est-ce que c'est toujours le cas selon toi ?
Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je fais ce métier sous réserve que je gagne autant qu'en faisant du conseil. Donc j'ai eu une politique à l'époque de prix qui était dans la fourchette haute. Et je crois que vendre peu cher t'expose à être moins pris au sérieux. C'est très simple.
À l'issue de cette formation, tu crées directement ta société? Comment ça se passe?
J'avais déjà une société, sauf que mon activité principale était une activité de conseil. Donc de 94, de ma formation à 99, j'ai continué à faire du conseil et je faisais très peu de coaching. J'ai eu très vite un client, mais les suivants sont arrivés beaucoup plus lentement. Donc je ne fais que du coaching, sauf exception, que depuis 1999. J'ai mis 5 ans avant de décider de ne plus avoir d'activité de conseil, donc plus de salariés dans mon entreprise, et de continuer seul.
Donc il t'a fallu 5 ans pour constituer une clientèle suffisamment dense, en quelque sorte, pour te permettre de basculer complètement sur le coaching?
Alors, c'est pas seulement moi, c'est qu'il a fallu 5 ans pour que le marché mûrisse. C'est-à-dire que pour que les gens se disent, effectivement, pour nos cadres, c'est intéressant de proposer du coaching. C'est plus du côté du marché que de mon côté que ça s'est fait.
Est-ce que dès le début, tu as fait à la fois du coaching et puis aussi de l'accompagnement de groupe, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est une de tes activités, l'accompagnement de groupe ?
En fait, les choses se sont faites en plusieurs temps. Donc, j'ai fait du coaching, sauf que à partir de 2000, j'avais été contactée par l'Institut de l'École normale supérieure, qui est une association loi 1901, et qui m'a demandé de concevoir des séminaires pour mettre en relation des chercheurs en sciences humaines et des dirigeants. Donc c'est d'abord au sein de l'Institut de l'École normale supérieure que j'ai créé des séminaires. Et c'est depuis 2016 que la collaboration avec l'Institut s'est arrêtée et que j'ai mes propres dispositifs collectifs.
Donc avec plus de 30 ans dans l'accompagnement des dirigeants et le développement du leadership, quelle est ton analyse sur l'évolution du management en France ?
La première chose qui me vient, c'est que l'exercice est de plus en plus difficile. C'est de moins en moins naturel, dirais-je, de plus en plus compliqué pour des raisons qui sont des raisons sociologiques autant que des raisons économiques. Le terme même, si tu réfléchis à l'histoire, nous sommes partis des patrons, puis nous avons eu les cadres, les managers. Et tu vois bien ce qui sépare un cadre d'un manager. Si je fais un mauvais jeu de mots, mais à mon avis assez juste, dans management, tu entends ménagement. Ce qui n'était pas vrai dans les années 60. Tu avais des institutions, des patrons, dits de droit divin, des cadres qui encadraient et des subordonnés, des employés. Aujourd'hui, le manager, il doit ménager les uns et les autres. Il est en relation avec un nombre d'interlocuteurs croissant. Tu n'as plus ceux qui pensent, ceux qui exécutent. On demande à ceux qui exécutent de penser, à ceux qui pensent de soutenir ceux qui exécutent. Donc deux principes structurants sont constamment questionnés aujourd'hui, l'exercice de l'autorité et les raisons de la légitimité, qui n'est plus, comme le disait Weber, liée à l'histoire, à la tradition, à ton titre, à ton passé. Elle est de moins en moins liée à ton statut, à ton diplôme, à ton école, même si cela reste déterminant en France. Donc aujourd'hui, la légitimité, tu es obligé de la fonder. Alors tu peux viser, comme le disait Weber, la légitimité charismatique, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Si tu n'es pas sûr d'avoir le charisme, tu es obligé de la construire. Et tu la construis avec tes pairs, avec ton équipe, avec tes supérieurs, et y compris avec l'environnement, avec les élus locaux, avec les journalistes, avec les syndicalistes. Donc ça devient un exercice difficile. Et d'autant plus difficile que le principe d'autonomie est un principe structurant dans la société française. Ce que montre très bien un sociologue que j'aime beaucoup, qui est là, Ehrenberg, qui a publié en 2010, je crois, La société du malaise, qui explique que l'autonomie qui était un idéal, c'est l'idéal kantien des Lumières, a Odessa Péré. Osons penser, même si tu as déjà l'idée chez Descartes, le discours de la méthode, c'est quand même une remise en cause du primat de la religion en disant maintenant nous allons utiliser notre raison. Aujourd'hui, c'est plus un idéal, l'autonomie. C'est une condition, c'est une exigence. Donc, comment tu diriges des gens qui prétendent à être autonomes? Sachant que, je rappelle l'étymologie, autonomos, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Donc, tu vois la complexité de l'exercice managérial. Et je termine en disant que, sans cela, de mon point de vue, les coachs n'existeraient pas. C'est-à-dire que c'est là que nous intervenons, autour de ces questions-là.
Alors justement, est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples d'accompagnement de managers qui étaient en souffrance ou en tout cas en difficulté pour mener à bien leur mission ?
J'ai envie de te parler de ma première mission. Pourquoi ? D'abord parce que ce fut apparemment un échec. Je travaille avec quelqu'un d'un peu plus de 50 ans qui vient d'être nommé pour la première fois président d'une SS2I américaine. Donc a priori, c'est une prise de fonction classique. Et puis, je sentais confusément que quelque chose n'allait pas, que les habits étaient trop grands pour lui. Un beau jour, il est appelé, comme savent le faire les Américains, à 8h du matin, « You're fired ». Je me précipite chez mon superviseur de l'époque et je lui dis « C'est un échec, je suis nulle ». Et il m'a dit cette chose formidable, il m'a dit « Mais avez-vous été payée, Catherine ?» Je lui dis « Oui, j'ai été payée. Est-ce que votre client a arrêté la mission ?» Je lui dis « Non ». Il me dit « Dans ce cas, vous continuez ». Et donc, ce monsieur a continué le travail, il m'a raconté son histoire familiale, il me montrait les pages du livre qu'il avait envie d'écrire et à l'issue de la mission, j'ai eu une carte quelques mois plus tard me remerciant pour l'excellent travail et me disant qu'il avait racheté un vignoble. Donc moi, j'ai commencé ma carrière sur une mission très atypique. Et ce que j'ai appris là, ce sont deux choses. La première, c'est que ça n'est pas au coach de déterminer ce qui est bien, pas bien. La deuxième, c'est qu'effectivement, la question de l'autorité, la question de la légitimité ne va pas de soi pour tout le monde et qu'il y a des individus pour qui ce n'est clairement pas possible, même s'ils disent le désirer ardemment.
Tu as commencé ta carrière de coach en accompagnant quelqu'un qui changeait de carrière.
Oui.
Et dans son histoire, il y avait quelque chose qui était sous-jacent et qui pouvait laisser penser ce changement parce qu'il y a un retour à la terre, il achète un vignoble, c'est pas rien. Il passe des SS2I, qui est quand même de l'immatériel, à un vignoble qui est quand même du concret et de la tradition. Ça devait être un coup de théâtre pour toi.
Complètement. D'ailleurs, quand il a commencé à parler d'achat d'un vignoble, je me disais, mais il est vraiment dingue. Et il l'a fait. J'ai envie de te dire que c'est à l'envers que ça a joué. C'est-à-dire, c'est en connaissant son passé, que je ne peux pas révéler aujourd'hui. Je pense qu'il est à la retraite, mais quelque chose dans l'histoire, dans sa petite histoire qui rejoint, ça je peux le dire, la grande histoire de la France, notamment l'histoire de la collaboration, quelque chose faisait qu'être président n'était pas possible. C'est-à-dire occuper cette place singulière d'exercice de l'autorité avec une certaine légitimité lui était inaccessible. Et j'ai rencontré cela à plusieurs reprises dans ma carrière. Et notamment dans de grandes organisations dans lesquelles il y a des filières. C'est-à-dire, si je caricature, t'es X-Mine, t'as 40 ans, tu vas devenir manager. Sauf que certains individus ne peuvent pas occuper cette place. Et c'est d'ailleurs là qu'on trouve parfois, suite à de telles erreurs, qu'on trouve les harceleurs. Quelqu'un qui n'est pas à sa place et donc qui va semer la zizanie.
Est-ce qu'il y a d'autres missions d'accompagnement de manager qui te semblent emblématiques ?
J'aime beaucoup les accompagnements à la prise de fonction. C'est-à-dire, j'aime beaucoup justement cette phase de crise au cours de laquelle quelqu'un s'interroge. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne suis pas trop jeune ? Comment vais-je faire avec X et Y qui voulaient mon job ? Et puis cet exercice où il s'agit de se situer par rapport à son équipe, de se resituer par rapport à ses pairs. J'aime beaucoup ces moments-là.
Et t'as un exemple de mission où t'as accompagné quelqu'un à mettre le pied à l'étrier, justement, comme tu le décris à l'instant?
Ça va du L'Oréalien qui va devenir patron de marque, quelqu'un qui est patron des ventes France qui va devenir patron des ventes à l'international. Et puis, j'ai mené beaucoup de missions pour des gens qui entraient pour la première fois dans un COMEX, un directeur juridique, une directrice de la communication. Donc là aussi, changement de paradigme, nécessité de se redéfinir, y compris par rapport à ses amis, à sa famille. Et là, il y a aussi tout un travail sur l'histoire sociologique de l'individu, quand il le souhaite, bien entendu. Les purs fruits de la méritocratie sont encore, lorsqu'ils sont cadres aujourd'hui, des gens qui sont issus d'une petite moyenne bourgeoisie et pour qui l'accès à une présidence ou à une grosse direction générale pose des questions. Qu'est-ce que je fais de cet argent ?
Ça me rappelle presque la personne qui gagne au loto. Il y a bien une difficulté à se sentir légitime.
C'est drôle que tu me parles de cela, puisque j'ai eu à intervenir une fois dans ma vie, un souvenir terrible, pour des gagnants au loto. Je devais faire une sorte de mini-conférence sur le travail. Et j'ai été horrifiée. Horrifiée par deux choses. D'abord parce qu'à l'époque, direction des jeux, leur donnait, tiens-toi bien, des cours de savoir-vivre pour aller à l'opéra. Donc en fait, ces gens sont pris en charge par la Française des Jeux pour s'assurer qu'ils vont faire un bon usage de leur argent. Et qui avais-je en face de moi ? J'avais des gens qui, un, ont dû déménager, donc complètement déracinés. Deux, ont perdu des amis. Trois, ont connu des difficultés avec leur famille et qui ne savent plus, excuse-moi cette familiarité, comment ils s'appellent. J'ai trouvé ça détestable. Et moi, à qui on avait demandé de faire un exposé sur le travail en tant que valeur. Alors, inutile de dire, j'ai fait tout à fait autre chose. Bon, j'ai fait un groupe de parole, expliquer qu'effectivement, le travail n'avait pas toujours été la valeur cardinale qu'il est devenu en esprit. J'ai cité Dominique Méda, je dis voilà. Pendant l'Antiquité, ce qui compte, c'est otium, l'oisiveté, l'homme libre et oisif. Donc, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas obligés d'aller à l'opéra, vous n'êtes pas obligés d'aimer les trois étoiles Michelin. continuer votre vie.
Pour revenir en fait à une situation managériale de quelqu'un que tu as accompagné, donc tu nous parlais effectivement d'une prise de fonction. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de situations dans lesquelles tu as pu intervenir au cours de ta carrière ?
Oui, moi j'aime bien les gens qui changent de job. Alors soit de manière volontaire, soit de manière subie. Et j'aime beaucoup voir comment des gens se réinventent, changent de secteur, font des choses qui moi me surprennent. Un cadre dirigeant dans un groupe de BTP il y a une quinzaine d'années, très furieux parce qu'il n'était pas au COMEX, commençant à menacer de partir. Et puis, il me parle d'un projet de rachat d'entreprise. J'étais extrêmement sceptique. Une confiturerie dans le sud de la France. Quand même, je lui dis, bon, et votre femme, etc. Et je lui dis, vous avez une idée de ce que c'est que la négociation avec un banquier Il commence à s'impatienter et puis il part de la séance très fâché, genre vous ne croyez pas à mon projet, il disparaît. J'appelle quand même au bout de 3 semaines en lui disant est-ce qu'on peut continuer à discuter. Donc il revient, il m'explique qu'il est très fâché contre moi, que je l'empêche. Et puis un jour il m'a confié ce qu'il ne m'avait jamais dit, qu'il était mélomane et que sa passion c'était la musique baroque. Et là, il a trouvé une piste. Donc cet homme est resté dans son entreprise, où il est devenu une sorte d'ambassadeur international sur les questions de l'entreprise. Et il a créé un festival de musique baroque. Et là aussi, quelques temps plus tard, j'ai reçu l'article de West France sur son festival. Ça, j'adore. Ça n'est pas toujours aussi exotique. Mais je suis toujours émerveillée par la capacité qu'ont les clients et les clientes d'inventer autre chose. Et j'aime beaucoup être là à ce moment-là.
Dans plusieurs des exemples que tu as partagés depuis le début, il y a une situation qui revient, c'est que le client a envie d'arrêter, ou en tout cas a envie d'un changement significatif, et en même temps il sent que c'est peut-être pas la peine de continuer. Et en réalité, c'est en continuant l'accompagnement, malgré les doutes éventuels, que ça soit ceux du coach ou du client, que quelque chose émerge.
Tout à fait. Je pense que le coaching, ça demande du temps pour les clients, pour les coachs. C'est la raison pour laquelle je travaille rarement moins de 6 mois avec un client.
À raison d'une séance tous les mois ?
Une séance tous les 15 jours, une séance d'une heure tous les 15 jours. Sauf évidemment, si tu m'appelles demain, que tu as une question et qu'on peut résoudre la question en 3 heures, je ne vais pas t'obliger à venir 6 mois. Mais en règle générale, c'est plutôt 6 mois, voire un an.
Pour avoir le temps d'intégrer ?
Laisser du temps au temps. Laisser le temps de mûrir, laisser le temps au client d'expérimenter, de prendre de la hauteur, ou bien d'y aller, de revenir en arrière. C'est clé, le rapport au temps. Et là aussi, le coaching a une fonction dans cette époque que François Hartog définit comme présentiste. C'est-à-dire que nous, coach, à mon avis, ne sommes justement pas des gens de l'instant, de l'immédiateté, mais du temps, le temps pour comprendre, le temps pour agir.
Tu parlais aussi de celles et ceux qui, effectivement, intègrent un COMEX. T'as un exemple concernant cette situation spécifique ?
Je me souviens d'une directrice juridique dans un laboratoire pharmaceutique qui était très, très anxieuse, qui me disait « Mais vous comprenez, Catherine, mais je ne connais rien à la finance. Moi, je suis une juriste. La stratégie, j'ai rien à dire. Je ne sais pas, finalement, si c'est une bonne idée, puis ça va me prendre du temps. » Et j'ai coupé en lui disant « Mais dans votre COMEX, il ne parle jamais du match du week-end, des vacances des enfants. C'est toujours stratégique. » Elle me dit évidemment non. Je dis donc, le COMEX, il y a une partie de conversation et il est important que vous soyez aimable dans la conversation. Après, si vous avez des idées, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous écoutez les autres. Et ça l'a rassurée. Elle a pu intégrer le COMEX en s'apercevant que ça n'est pas un exercice scolaire, c'est un exercice de partage.
Quand nous avons préparé l'entretien, nous avons évoqué la situation du management en période de crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020. Qu'est-ce que cette situation t'inspire ? En quoi le manager a évolué avec la crise sanitaire et avec le Covid ?
Ce que j'ai entendu, notamment au sein du Leading Lab, donc mon petit groupe qui réunit les dirigeants expérimentés de secteurs aussi différents que la banque, les cosmétiques, la pharmacie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que des questions se posaient quant à la distance avec les collaborateurs. À quelle fréquence je prends des nouvelles ? Qu'est-ce que je fais par rapport au télétravail ? Comment je structure mes réunions ? De la vie générale, avec un échantillon microscopique, certes, de 8 personnes, mais de 40 à 60 ans, c'est que les gens ont été très impressionnés par l'autonomie, les initiatives prises par leurs collaborateurs. Donc ce fut plutôt une bonne surprise. En revanche, ce que disaient tous ces dirigeants, c'est que ce fut exténuant. Ce fut une épreuve physique et morale.
Il y a aussi la question du respect de la vie privée dans ce cadre de management à distance, jusqu'à quelle heure je peux appeler, etc.
Oui, alors ça, cette question de la vie privée, je l'ai moins entendue chez les managers que chez les personnes avec qui j'ai travaillé de manière bénévole. C'est-à-dire que lors du premier confinement, j'ai proposé à des DRH fidèles, mais aussi à des amis, anciens clients, etc., de faire du bénévolat. Et là, cette question de la vie privée, je l'ai entendue aussi bien dans la bouche d'une assistante me disant, voilà, j'ai 2 enfants, je suis mère célibataire, terre. Je ne sais plus m'arrêter, je n'arrive plus à structurer ma journée. Que de la directrice des opérations d'une entreprise de joaillerie, elle aussi n'arrivant plus à mettre les limites. En général, les managers ont essayé de limiter les choses, mais sans grand pouvoir.
Tu partageais à l'instant le fait que tu as fait de l'accompagnement pro bono pendant le premier confinement. Quelle était l'intention de cet accompagnement pro bono ?
La première, je vais être tout à fait honnête, c'était calmer mon anxiété. J'ai assez mal supporté d'avoir moins de travail. Deuxième chose, devant tant de désarroi, l'envie d'être utile. Et puis troisième et dernière chose, l'envie de travailler avec des gens d'autres milieux sociaux.
T'en as fait beaucoup d'accompagnement pro bono du coup pendant cette période ?
Oui, j'ai dû accueillir une trentaine de personnes peut-être. De l'assistante dont je te parlais débordée, en passant par le jeune retraité dirigeant automobile, l'étudiant qui est moins motivé pour passer son concours, la jeune cadre londonienne qui se demande si elle va rentrer en France, donc assez grande diversité. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'au fond, finalement, dans ces moments-là, un coach, c'est quelqu'un qui aide à prendre de la hauteur par rapport à l'événement, qui aide à structurer son emploi du temps et qui offre une certaine empathie. Ce qui m'a frappé, c'est que les questions et le rapport au travail ne sont pas structurellement différents entre l'assistante et son président.
Tu nous partages à l'instant que ça t'avait fait prendre conscience que les problématiques n'étaient pas différentes, quel que soit le niveau hiérarchique. Est-ce qu'il y a un autre élément qui t'a sauté aux yeux au travers de ces différents accompagnements pro bono ?
Le rôle clé de la situation familiale ou amicale personnelle. J'ai eu deux personnes, ce qui peut paraître peu, mais dans une très très grande détresse, parce qu'isolées. Et je t'avoue avoir été, au moins à une reprise, très désemparée moi-même, en entendant quelqu'un me dire « Vous savez, madame, moi je peux mourir demain, je vais chez ma famille, personne ne le saura. » Et là, que répondre ?
Sur ton site internet, tu fais le parallèle entre le management et le jardinage notamment. Pourrais-tu nous en parler ?
Il me semble que le management, comme le jardinage, sont des exercices de bricolage, d'improvisation, et qui prennent du temps, avec une grande part d'inattendu. C'est ce qui explique qu'au fond, malgré les écoles de management, les salariés, les dirigeants aient aussi besoin de gens comme nous. Parce qu'effectivement, ce qu'ils font en coaching, c'est expérimenter, c'est essayer, c'est prendre le temps. Et pour avoir jardiné moi-même, ça demande une patience infinie. On se trompe souvent, donc on refait autrement. Et en même temps, l'autre trait commun, c'est que c'est à jamais raté. C'est-à-dire qu'en jardinant, on a de bonnes surprises. Puis une fleur qui ne partait pas, elle finit par partir. Et une plante que tu achètes, tu dis « ça marchera jamais ». Tes voisins te disent « non, vous savez, ça marche pas ici ». En fait, ça marche, donc la surprise.
Sur ton site internet, c'est assez étonnant. Il y a de nombreuses photos très très belles de jardins magnifiques. Est-ce en lien avec un jardin que tu connais particulièrement ?
Oui, elles viennent toutes de Chaumont-sur-Loire, où a lieu chaque année depuis une vingtaine d'années le Festival des Jardins, qui permettent de découvrir 22 espaces différents autour d'une même thématique. Et donc des paysagistes, des architectes, des designers, c'est un lieu magique. C'est un lieu magique aussi parce qu'il propose beaucoup d'œuvres d'artistes contemporains dans différents espaces, et notamment d'œuvres de Land Art, où vous pouvez découvrir des gens aussi différents que Giuseppe Pennone et le grand artiste ghanéen Elana Sui, etc.
Donc en fait, ça veut dire que le manager, potentiellement, c'est un jardinier.
C'est un jardinier, c'est un bricoleur qui est dépendant. Le manager dépend du bon vouloir de son équipe, de ses pairs, de ses supérieurs, de l'état du marché, des concurrents, comme le jardinier qui dépend de la météo, qui dépend du prix des semences, et puis le temps. Le jardinage, c'est une œuvre de longue haleine. Je crois que le management, c'est aussi un travail qui demande du temps.
Donc il y a à la fois la notion d'écosystème et la notion de durée, donc prendre le temps et être patient.
Oui.
Quand tu parles de durée, c'est à la fois être patient et inscrire des projets sur une durée moyen et long terme, c'est ça ?
Oui.
Peux-tu nous parler du Leading Lab ? Est-ce un groupe de codev, un groupe de supervision, un groupe de partage et de ressourcement, ou alors tout ça à la fois ?
Prioritairement, dirais-je, un groupe de partage et de ressourcement. Et j'y ajoute une dimension qui en fait un groupe de réflexion. C'est-à-dire, c'est l'occasion, au cours d'une année, pour des managers un peu expérimentés, de réfléchir aussi et de prendre du recul sur mes marottes que tu me connais maintenant, qui sont liées à l'exercice de l'autorité et aux sources de la légitimité, c'est-à-dire l'acte de parole, l'acte d'écriture, l'incarnation du rôle, de prendre de la hauteur par rapport à ces questions, mais aussi d'expérimenter avec d'autres, à travers des mises en scène, des situations, des jeux de rôle éventuellement.
Du coup, comment tu pourrais décrire ce que vous faites ? Tu parlais de scénettes, de jeux de rôle, j'imagine, d'exercices avec une participation, une coparticipation,
oui,
une co-création.
Ça. Il y a un thème. Les gens vont évoquer des situations. Et si des situations leur posent problème ou leur posent question, nous allons construire ensemble un jeu de rôle, par exemple. Ou bien je vais proposer un petit exercice à partir de ce que la personne vient de dire. Une mise en scène. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps de ces après-midi, c'est un temps où deux participants du groupe peuvent, et ça le rapproche du codev que tu évoquais, poser une question et les autres essayer de lui faire des suggestions pertinentes et utiles.
Alors, tu proposes un séminaire de 4 jours dédié aux dirigeants. C'est un parcours que tu as appelé « Femme de tête ». Peux-tu nous en parler ?
Femme de tête est le fruit d'une histoire. C'est-à-dire que le dernier cycle que j'ai animé à l'Institut de l'École Normale Supérieure s'intitulait « L'école des femmes ». Et il avait la particularité suivante, c'est que nous recevions lors de chaque session un chercheur, des géographes aux anthropologues en passant par les neurologues, les psychanalystes, les historiens, évoquant la question des femmes dans la société. Et puis en deuxième partie, ces femmes ont produit un dictionnaire. Je tiens à préciser qu'elles l'ont écrit elles-mêmes. Et donc, chacune proposait un mot, apportait sa définition, qui était soumise au groupe et validée. Si elle n'était pas validée, nous proposions une deuxième définition. Le moment le plus émouvant, c'est que nous en avons fait un spectacle qui a été présenté au sein de l'auditorium de Pernod Ricard, devant des gens aussi bien de L'Oréal, LVMH, Lafarge, Société Générale. Donc, pendant 5 ans, j'ai écouté pendant les pauses, les déjeuners, les dîners, plus d'une 60aine de femmes. Et donc, à la fin de cette expérience, je me suis dit, je veux proposer à ces femmes des choses concrètes. Ces choses concrètes sont tout simplement des savoir-faire qu'elles répugnent parfois à mettre en œuvre. Je te les livre. Dire et se dire. Se rendre visible. Se faire entendre. Négocier. Valoriser une expérience ou un projet. Donc j'ai construit ce cycle avec ces demi-journées thématiques qui n'ont pas d'autre prétention que de proposer là aussi des jeux de rôle, un tout petit peu de théorie à chaque fois, et puis des jeux de rôle, des mises en scène dans la joie et la bonne humeur, de façon à leur permettre d'exercer leur ambition, leur projet, de manière plus aisée, plus facile. Deuxième effet qui n'était pas prévu, c'est bien entendu qu'elles partagent, elles discutent, donc elles s'aperçoivent que les difficultés qu'elles rencontrent, elles ne sont pas les seules à les rencontrer. Elles s'aperçoivent aussi parfois que telle personne dans telle entreprise n'a pas cette difficulté et peut donner un avis ou un conseil. Donc il y a un effet en quelque sorte rencontre.
Moi j'entends aussi leur donner envie d'oser.
Oui, bien sûr, tu as raison.
Donc il y a un double sens aussi dans ce nom, hein, femme de tête à la fois volontaire et cérébrale, est-ce à dessein ?
Oui, bien sûr. Il y a même un triple sens. Une femme de tête, c'est une femme volontaire et cérébrale, mais une femme de tête, c'est aussi une femme en haut. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de leur faciliter le chemin pour arriver à la tête. Et je précise, mon cher David, si elles en ont envie. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'imagine que toutes les femmes doivent présider une entreprise du CAC 40. Simplement, leur offrir la possibilité de mettre en perspective leur choix et leur permettre aussi à cette occasion de questionner leurs propres stéréotypes. Nous parlons bien volontiers des stéréotypes des hommes, mais les femmes elles-mêmes ont un certain nombre de stéréotypes sur les femmes, voire sur les autres femmes et sur les hommes. Donc c'est aussi le lieu pour questionner ces éléments. L'idée la plus communément admise est que les hommes ont des stéréotypes sur les femmes. Mais les femmes, elles aussi, portent des stéréotypes extrêmement nocifs sur elles-mêmes et bien entendu également sur les hommes, ce qui n'aide pas.
Ça fait longtemps que tu animes ce groupe Femmes de tête ?
Je lance le 12 mars la 6e édition.
Est-ce que tu peux nous partager un souvenir d'une des éditions précédentes ?
J'ai du mal à en isoler un. Ces femmes me portent. J'ai vu des femmes défiler, enfin aussi belles que les plus belles des top modèles des 20 dernières années, incarner quelque chose. J'ai entendu des femmes chanter des chansons absolument merveilleuses. Donc je n'arriverai pas à isoler un moment.
Et si tu compares en fait le groupe Leadership Lab et Femmes de tête, ces deux types d'accompagnement, donc plutôt en mode collectif, qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta pratique ?
Deux choses. Là aussi, comme tout à l'heure dans ta question sur le confinement, je vais commencer par moi-même. Ça me sort du face-à-face. Tout à coup, je suis dans un groupe, donc je suis portée. Et puis, deuxième chose, ça ouvre mon horizon. C'est-à-dire que j'apprends, tu imagines bien, en écoutant ces hommes et ces femmes, j'apprends quelles sont leurs questions, donc je me forme. C'est un dispositif qui est complémentaire.
Dans le Leadership Lab, j'imagine que c'est mixte, et alors que dans Femmes de tête, c'est plutôt réservé aux femmes.
Oui.
Il y a un équivalent juste pour les hommes ou pas ?
Non.
Il n'y a pas d'équité alors ?
Un de mes amis me dit, mais j'aurais rêvé le faire. Je pense que les hommes n'en ont pas aujourd'hui, en tout cas, le même besoin.
À présent, je te propose de découvrir l'archive sonore que tu as choisi pour faire une pause dans notre entretien.
Pourquoi qu'on part pas pour Toulon ? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain.
Et après ?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille ? On n'est pas heureux tous les deux ?
Non.
T'en es sûr ?
Oui.
T'aimes pas notre vie ?
Tu l'aimes, toi, notre vie ?
Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors ?
Alors rien, j'en ai assez, tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi ?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Alors il s'agit bien sûr de la scène mythique du cinéma français avec la célèbre réplique d'Arletty à Louis Jouvet dans le film Hôtel du Nord de Marcel Carné, sorti en 1938 et adapté du roman éponyme publié en 1929 par Eugène Dabi. Pourquoi ce choix, Catherine ?
Parce que j'adore Arletty, parce que j'adore ce passage et parce que je l'utilise régulièrement, précisément, au sein de Femmes de tête. En particulier lorsque l'une des participantes évoque sa difficulté à répondre à des propos sexistes. J'essaie d'inciter ces dames à répondre de manière théâtrale. Et donc, je leur fais jouer la scène. Et pour certaines, c'est d'une très grande difficulté et en même temps, c'est un grand bonheur. Voir une L'Oréalienne pure jus, extrêmement bien élevée, utiliser la langue d'Arletty et réussir à se camper comme ça, c'est un bonheur dont je ne me lasse pas. Et moi-même, j'ai eu l'occasion, dans certaines circonstances, de jouer ce côté Arletty, j'adore ça.
C'est assez culotté, si je puis me permettre, oui. Parce que Arletty, dans ce film, de mémoire, joue le rôle d'une prostituée,
oui.
Et Louis Jouvet, c'est son souteneur, en fait.
Oui.
Donc, faire jouer ça à des femmes dirigeantes, elles le vivent bien.
C'est toi qui m'y fais penser. Je ne me suis jamais posé cette question. Après cela, je leur fais parfois apprendre par cœur l'hommage du sketch de Foresti à Arletty. Ah, c'est extraordinaire.
Puis il y a une gouaille aussi.
Il y a une gouaille chez Arletty et une gouaille chez Foresti qui m'enchante et qui les enchante.
Et du coup, ça leur permet de mettre le pied à l'étrier justement dans ce genre de situation où elles osent après répondre avec une pointe d'insolence.
Je ne peux pas te dire si elles le font. En tout cas, je considère de ma responsabilité de leur dire que rien n'est plus désarmant pour un goujat, pour un sexiste, qu'une pose très théâtrale, très effrontée, humoristique. J'ai testé pour elles. Et d'autres, en général, dans le groupe, ont, comme moi, testé pour elles et peuvent démontrer de l'incroyable efficacité du procédé.
Dans la préparation de cet entretien, tu m'as confié assumer ton positionnement que tu as qualifié de marginal. Pourrais-tu nous en parler ?
Je suis marginale en ce sens que je ne me reconnais pas dans certaines tendances contemporaines du coaching. Je suis marginale également dans le fait que je n'ai pas toujours été coach, mais j'ai toujours été consultante. Je n'ai jamais eu la moindre responsabilité managériale. Je n'arrive même pas à commander mon ordinateur. C'est dire. Et marginale en ce que j'ai une approche du coaching qui s'inspire et qui continue de s'inspirer des sciences humaines, de la philosophie si besoin, mais surtout de la sociologie, de l'économie. Et de la psychanalyse qui, je tiens à le préciser, n'a pas beaucoup à voir avec la psychologie. La psychanalyse, elle me sert en ce qu'elle est une éthique du désir. Elle n'est pas une éthique de l'adaptation. Je me suis sentie suffisamment marginale pour démissionner d'une institution comme la SF Coach il y a plus d'une dizaine d'années, car l'évolution ne me convenait plus. Au moment où je suis devenue membre titulaire, c'était un exercice extrêmement sympathique, extrêmement formateur. Donc il y avait un dossier à préparer et puis j'ai rencontré un jury de 4 personnes qui m'ont posé des questions pertinentes et incisives quant à ma pratique. Toc, titulaire. 10 ans plus tard, avait été mis en place un comité d'agrément et de déontologie dont j'avais le sentiment qu'il n'avait d'autre visée que d'entretenir une bureaucratie, premier élément. Et ce que j'ai cru constater aussi, c'est que pour devenir titulaire, il fallait pouvoir attester du magasin de la redoute de la psychologie. J'ai fait de l'AT, je suis certifiée MBTI, je suis PCM, c'est-à-dire des accessoires autour d'une psychologisation extrême du métier qui me paraît préjudiciable et politiquement condamnable. Je suis très ferme.
Sorte de boîte à outils.
Boîte à outils du coach, c'est grotesque. Pour se légitimer, mais c'est peine perdue. Pour être légitime, y compris dans le monde contemporain, il faut avoir une profession. Or, comme le dit mon ami Jean-Yves, que tu as reçu, c'est pas une profession, coach. C'est un métier dans le sens où, au bout d'un moment, tu as une certaine expérience, mais ça n'a pas le statut d'une profession. Or là, vous avez deux ou trois syndicats qui tournent en boucle en croyant bien faire et qui ne font que nourrir le symptôme d'illégitimité des coachs, c'est tout.
Donc il y aurait une sorte d'erreur ontologique, quoi.
Oui, il y a une erreur, tout à fait, elle est ontologique. C'est pas une profession, ça ne peut pas l'être.
À t'entendre, je me dis aussi que l'indépendance d'esprit et la libre pensée sont importantes pour toi.
Pour moi, c'est essentiel, mais depuis mes 7 ans. Alors pour le coup, si je ne peux pas te dire ce que je voulais faire, je peux te dire que dès 7 ans, j'avais une certaine indépendance d'esprit qui ne m'a plus jamais quittée et qui m'a parfois valu des ennuis.
Le fait d'être perçue parfois comme impertinente.
Oui, comme insolente, irrévérencieuse, et pire, arrogante, méprisante, hautaine.
Tu ressens quoi justement quand tu te connectes à ces souvenirs, à ces feedbacks qui étaient assez donc, violents, assez durs à entendre, j'imagine?
Ça me fait sourire. Parce qu'effectivement, j'ai conscience aujourd'hui d'y être allée un peu fort parfois, d'avoir été extraordinairement naïve. Mais ce sont plutôt de bons souvenirs, au fond.
En même temps, exister était à ce prix, peut-être.
Oui, oui.
Tu parlais tout à l'heure de la psychanalyse. Tu as fait toi-même une psychanalyse, c'est ça? Ou tu es psychanalyste également?
J'ai été psychanalyste pendant quelques années, jusqu'à ce que se pose la question de la compatibilité. Et donc, l'exercice de la psychanalyse est un véritable sacerdoce. C'est-à-dire formation le soir à 21h, colloque le week-end. Donc, à un moment, je me suis dit que je ne voulais pas continuer de la sorte. Donc, j'ai arrêté la psychanalyse, continué ma vie de coach.
Alors, tu as un parcours que je qualifierais de pionnière. Lorsque tu le regardes dans le rétroviseur, quelle cohérence globale y vois-tu?
Je crois qu'il a été guidé par une citation qui m'a beaucoup marquée très jeune. J'ai fait mon mémoire de ce qu'on appellerait aujourd'hui master en philosophie politique sur Hannah Arendt, qui a eu cette phrase « Ma passion, c'est de comprendre le monde ». Je l'ai noté très jeune et je crois que c'est le fil directeur de tout ce que j'ai entrepris professionnellement. J'aime apprendre, j'aime comprendre. Je suis une passeuse et j'aime ça.
Une passeuse?
Oui, passer d'un état à un autre, comme dans le coaching, mais faire se rencontrer des dirigeants, des chercheurs en sciences humaines, des gens de L'Oréal avec des gens de Chloé ou d'IBM. J'aime des situations de passage.
Et la notion de maïeutique, c'est quelque chose qui te parle également?
Je crois que le coaching, c'est ça. Il s'agit d'accompagner l'accouchement d'un projet, d'une ambition, d'une envie, d'un départ. Oui, je crois. Sauf que là où il faut se méfier de la métaphore, c'est que dans des dialogues de Platon, Socrate a toujours raison. Nous, coachs, ne sommes pas Socrate, ou alors c'est très inquiétant. J'en connais qui se prennent pour Socrate, ça existe. Nous n'avons pas raison. C'est-à-dire que nous ne posons pas des questions en connaissant la réponse, ni en essayant, comme le fait parfois Platon, de piéger ses interlocuteurs. Nous restons jusqu'au bout à notre place. Quand un client m'a dit « je veux un vignoble » ou « bon, ok », mais il avait raison. Il l'a fait. J'ai juste eu la prudence de me taire. Il nous arrive d'accompagner des gens qui, là aussi, pour le dire de manière triviale, vont dans le mur. Toi, moi, le savons. Simplement, nous devons les accompagner jusqu'au mur. Parce que nous savons qu'ils doivent y aller. Et ça, c'est dur dans le métier. T'as envie de dire au client, mais arrêtez là, arrêtez. Ça ne servirait à rien. J'ai vu à plusieurs reprises des clients dont je me disais, mais c'est pas possible. Il ou elle fait tout, il est viré dans 3 mois. Et donc, tu essaies d'expliquer gentiment, oui, alors voyez, là, vos interventions au COMEX, vous risquez de passer pour Cassandre, ou bien ne faites pas l'Antigone, etc. Oui, 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 Catherine. Et puis, la personne est virée et elle est soulagée.
Inconsciemment, elle l'a presque voulu.
Bien sûr.
Il y a un exemple qui te vient en tête?
Ah oui, il y a 2 ans, une cliente, je me disais, ça va se terminer comme ça, donc chaque séance, j'essayais deux, et puis à la 3e, je me suis dit, maintenant, tu te tais. Tu ne peux plus rien faire tant que la pièce n'est pas finie.
Il y a eu un dénouement heureux?
Bien sûr, après 2 mois de déprime, de tristesse, puis elle a retrouvé un job dans lequel elle est infiniment mieux.
Qui correspondait plus à ses valeurs?
Bien sûr.
Il y a aussi ça qu'on n'a pas abordé, l'alignement avec ses propres valeurs. T'en as eu beaucoup de situations où il y avait un non-alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs prônées par l'entreprise, pour le manager par exemple?
Pas énormément. Ce qui m'arrive assez régulièrement, le dirigeant qui est depuis 25 ans dans un grand groupe, qui est viré à peu près sans raison, et qui, un an ans plus tard, une fois requinqué, te dis « Mais comment j'ai pu travailler ? Ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. » Mais a posteriori.
Force est de constater que le métier de coach a beaucoup évolué ces dernières années. Quel regard portes-tu sur sa récente évolution et sur son avenir ?
Sa récente évolution m'inquiète un peu, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est la standardisation, qui va de pair avec une psychologisation à l'extrême, qui me paraît préjudiciable et dangereuse. Dans la mesure où elle atteint, ce qui me paraît important, c'est l'intime. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai vécu une réunion épouvantable dans une entreprise où j'avais rencontré un homme, chercheur de formation, faisant de la R&D, donc inutile de dire qu'il n'avait pas l'entre-genre. Je vais utiliser un stéréotype d'une responsable des relations publiques, très réservée.
Ça, c'était ton client potentiel.
Voilà, c'était mon client potentiel. Je rencontre ce monsieur, je lui dis oui. Sauf que, réunion tripartite avec sa responsable hiérarchique et la responsable RH. Et figure-toi que la responsable RH a été formée au coaching. Alors déjà, elle s'adresse à cet homme et elle lui dit « T'es trop loin de tes émotions, tu vois, tu manques d'intelligence émotionnelle. » Alors déjà, je vois cet homme se décomposer parce que pour lui, intelligence, ça n'a qu'un sens. Et elle finit par lui dire, et la patronne, tout à fait d'accord, « Tu n'es pas généreux. » Là, j'ai vu cet homme pâlir, moi ne sachant plus que dire, mais essayant de faire effectivement la responsable des relations publiques en disant « Pouvez-vous préciser votre pensée ? Est-ce qu'il y a des faits ? C'est peut-être un peu trop moral, je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous vouliez dire. » Je suis sortie de là, j'étais dans une colère noire.
Enfin là, en l'occurrence, il y avait du jugement, c'était gratuit.
Voilà. Mais c'est ça, cette psychologisation extrême ne va pas sans la morale qui va avec. Et donc, conduit à un mésusage du coaching. On ne propose plus du coaching pour permettre à une personne de manager avec plus d'aisance, mais pour reconfigurer en quelque sorte sa psyché. Je dis non. En tout cas, je ne sers pas cette cause-là.
Et du coup, t'as refusé le coaching ?
Mais non, parce que j'avais dit oui à cet homme. Si j'étais retournée le voir en lui disant « Non, monsieur, je ne travaille pas avec vous », j'aurais complètement participé, donc j'étais piégée. Il a bien compris qu'il avait beaucoup de finesse, que j'avais pris du recul tout en restant en courtoise, et la mission s'est très bien passée.
Ça, c'était la réunion tripartite de lancement. Est-ce qu'il y en a une à la fin d'atterrissage ?
Oui, oui, oui. Grand moment. Alors cette fois, nous l'avions préparé avec mon client, pur moment théâtral. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu qui était attendu de lui. Le coaching a été formidable, ça m'a beaucoup appris, etc. N'importe quoi.
Le caméléon, quoi.
Le caméléon. Et les deux, là, faisant, elle aussi, j'imagine, semblant de croire. La première séance m'a beaucoup mise en colère, la dernière m'a réjouie. J'ai l'impression d'avoir joué une pièce de Pirandello.
Et pour autant, lui, il avait pu atteindre ses objectifs.
Lui était plus à l'aise. Et effectivement, a pu se situer par rapport aux attentes de l'organisation. Qui, si on avait raisonné un peu, consistait à lui dire que son management était peut-être un peu trop carré et que la mode était à un management plus participatif. Mais ça, c'est audible. Ça n'a rien à voir avec savoir si David est généreux ou pas. On s'en fout. Manager, c'est pas toi. C'est un rôle. Donc, évidemment, ça lui a été utile.
Et donc, il a été capable d'endosser son rôle de manager.
D'endosser son rôle, y compris dans la pure comédie avec ces deux femmes, dans un jeu qui était un jeu de dupes.
Tu nous partageais un autre exemple dans un établissement bancaire ?
Oui, où existe un parcours pour devenir dirigeant, dont je me demande de toi à moi comment l'inspection du travail ne s'en est pas saisie, avec une immersion façon loft, avec le coaching, l'assessment. Et là aussi, j'ai assisté à une réunion avec des gens des RH tenant des propos. Déjà, m'appelant avant la réunion pour me donner des informations sur la situation personnelle privée des personnes, ça ne s'invente pas.
Ah oui.
C'est rarissime, entendons-nous. Hein. Et deuxièmement, pendant la réunion, ayant des propos que je considère comme tout à fait déplacés, style, tu sais, machine, elle n'ose pas te le dire, mais moi, elle m'a dit que t'étais trop autoritaire, tu débriefes pas assez.
Radio moquette, quoi.
Voilà, radio moquette.
Et là, c'était aussi une réunion tripartite ?
Oui.
Et est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé pendant l'accompagnement de ce client ?
Ça s'est très bien passé, parce que lui et moi, pour le coup, avons joué le jeu aussi.
Et la réunion de tripartite de clôture ?
Il n'y en a pas eu.
Est-ce à dire que dans les grosses entreprises, c'est plus compliqué le coaching au jour d'aujourd'hui ?
Non, non, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Ou bien nous avons affaire à une DRH qui fait un bon usage du coaching, qui considère que c'est une opportunité offerte à des cadres dirigeants, pour ceux dont je m'occupe, de prendre de la hauteur, de réfléchir à d'autres façons de faire, de voir, d'agir éventuellement, ou bien c'est un outil de contrôle social et tu as ce genre de scène ridicule. Mais c'est relativement rare. J'ai vu pire, une fois il y a une dizaine d'années, une demande d'une entreprise qui voulait, pour des femmes, faire un assessment, puis à la fin de l'assessment, définir des thèmes. Donc les personnes avaient, je ne sais plus très bien, 2 ou 3 séances avec 2 ou 3 coachs différents qui, à l'issue, devaient faire une évaluation. Là, je dis même pas en rêve. Je m'insurge contre certains confrères ou certaines consoeurs qui font les deux. Là aussi, au risque de paraître rigide ou rigoriste, je n'évalue pas les gens.
Mais il y a un problème d'éthique, en fait.
Évidemment.
Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, tu es aussi supervisée, j'imagine ?
Non, je ne suis plus supervisée, je l'assume. Aujourd'hui, lorsque j'ai un problème, j'appelle un très bon ami ou une très bonne amie pour lui en parler. Et que ça suffit comme ça.
Qui est coach ?
Ben évidemment, je n'appelle pas mon épicier, ni ma pharmacienne.
Encore. Non mais précisons pour les auditeurs,
bien sûr,
évidemment.
Bien sûr.
Tu mets en place effectivement un accompagnement de type supervision lorsque tu en ressens besoin impérieux.
Si j'ai une difficulté, j'appelle un ami dont je pense qu'il peut m'aider à mieux comprendre la situation ou en tout cas l'éclairer.
Aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'accès aux coachs via des plateformes. On pourrait presque parler d'une ubérisation du métier en parallèle. Est-ce une bonne chose selon toi ?
Alors là-dessus, je n'ai pas d'avis. En revanche, la démocratisation du coaching, oui, mais c'est un phénomène sociologique. J'évoquais tout à l'heure quelques sociologues, j'ai envie d'y revenir, je voudrais en citer 3. Alain Ehrenberg, La société du malaise, Danilo Martuccelli, Forgé par l'épreuve, et puis un troisième aussi qui est connu des médias, mais pas pour ce livre, Jean-Claude Kaufmann, célèbre pour avoir écrit sur le couple, sur le sac à main, qui a écrit un ouvrage extrêmement profond qui s'appelle L'invention de soi. Ces 3 sociologues montrent bien comment notre société est régie par le paradigme de l'autonomie, dans un contexte où les institutions, l'Église, l'État, l'armée, les entreprises elles-mêmes sont contestées, et dans un contexte dans lequel le primat porte sur l'individu. Mais cet individu, il ne peut pas être autonome, et c'est bien là qu'il souffre. Ce qui fait souffrir, c'est la question de la relation à l'autre. Or, nous, coachs, que faisons-nous sinon venir à ce joint-là pour permettre aux gens de trouver le bon rapport avec son manager, mais avec son fournisseur. J'ai écrit un petit ouvrage il y a une dizaine d'années qui s'intitulait « Quand le travail fait symptôme ». J'avais analysé ce que les gens me disaient lors du premier entretien, avant même de devenir ou non client. Pourquoi les gens viennent-ils voir un coach professionnel ? Parce qu'il y a un problème avec les autres, avec l'équipe, avec le patron, avec les autres services. Donc, le coaching se démocratise parce que nous avons une fonction sociale.
D'aider à l'ajustement.
D'aider à l'ajustement. Ce qui nous guette, regarde les réseaux sociaux, c'est la paranoïa. C'est-à-dire un autre qui te persécute, un autre qui est menaçant. Et si j'oublie la psychanalyse et que je reviens à l'entreprise, je discutais récemment avec une cliente, l'une des choses, me semble-t-il, les plus nocives dans les entreprises, c'est d'avoir inventé la notion de client. Les si, ils ont comme client le commerce. Le commerce, mais c'est délétère. Une entreprise, me semble-t-il, c'est un corps social des gens qui sont faits pour travailler ensemble. Or, comment veux-tu que ça aille bien quand d'un côté, tu as créé des rapports client-fournisseur et de l'autre, tu dis la bienveillance, la coopération, double contrainte à nouveau. Et nous, nous sommes là pour permettre d'ajuster toute cette difficulté de la relation à autrui. Donc le coaching va se démocratiser, et très bien. Et pour finir, je voudrais te parler de moi. J'avais une cliente qui avait un coach sportif qui passait la chercher à 7h30 du matin pour aller courir dans le bois. Je me disais, mais la pauvre. Et puis, ma kiné me dit, mais Catherine, ce serait bien que vous alliez faire des machines dans une salle. Et je me dis, je vais voir. Et là, je rencontre un coach sportif. Et c'est génial. Quelle est la différence entre le prof de sport et le coach sportif ? J'ai détesté le sport à l'école. Le prof de sport, c'est le même programme pour tout le monde. T'aimes, t'aimes pas, etc. Le coach sportif, il dit, voilà, alors vous avez mal où ? Il t'explique comment fonctionnent les machines, il te fait un programme sur mesure, il t'aide à apprivoiser les machines. C'est ce que nous faisons, nous, pour la vie professionnelle. Voilà. Coaching me semble répondre à une nécessité contemporaine dans un monde où le lien social est compliqué.
Et où il y a de plus en plus un besoin d'ajustement au quotidien dans plein de situations différentes.
Oui.
En quoi les coachs ont un rôle à jouer dans la société de demain qu'il nous reste à construire ?
Je crois que je viens de répondre à ta question, c'est-à-dire que les coachs ont un rôle à jouer en permettant de tisser, en tout cas dans le monde du travail, un rapport au travail, une relation à l'entreprise, moins difficile, moins douloureuse, surtout plus légère.
À présent, je te propose l'interview rétrospective sur ta carrière, qui est un moment que j'aime bien parce que ça permet de regarder un petit peu dans le rétroviseur, un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'ici. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ?
Je suis incapable de répondre à cette question.
Au-delà de la fierté, ça peut être aussi une sorte de joie, en fait, un accompagnement qui t'a mis en joie.
En réfléchissant, J'ai accompagné quelqu'un qui était dans une situation unique, dont je ne peux pas parler, de difficultés professionnelles inouïes que je n'avais jamais rencontrées, où je n'ai fait qu'une chose, c'est lui faire confiance. Pendant plusieurs années, jusqu'à un dénouement heureux, ce fut la mission la plus difficile et dont je pourrais être la plus fière, parce qu'il a formidablement rebondi. Mais je ne sais pas si je dirais fierté, peut-être la plus émouvante.
La plus forte.
Oui.
Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? Tout à l'heure, tu nous partageais l'histoire d'un homme qui renonce à une présidence pour acheter un vignoble. Ça, c'est quelque chose d'assez surprenant.
C'est peut-être la plus surprenante, en effet.
Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ?
Que je suis une excellente coach. Point.
Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative de coach ?
Non, ça, je ne le souhaite à personne. Comme disait Groucho Marx, je ne voudrais pas être présidente, entrer dans une association dont je serais moi-même présidente. Non, je ne suis pas faite pour ce rôle. Clairement, non.
Pourtant, il y a une liberté de parole qui pourrait être intéressante. Hein.
Non. J'ai été administratrice un temps. L'histoire a montré que je n'étais pas faite pour ce genre de responsabilité. Et puis, je n'ai pas la militante. Sinon, j'aurais continué à travailler avec des hommes politiques, ce que je n'ai pas fait.
D'ailleurs, tu fais un parallèle entre ton premier boulot, qui est quand même assez surprenant, je l'ai qualifié avec amusement de Sherpa, et quelques années après, les accompagnements en coaching professionnel que tu as pu faire.
J'ai beaucoup travaillé avec des présidents qui arrivaient avec de grands projets de transformation de leur entreprise, donc c'était assez proche, oui. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas coaching, même en 95. Ça s'appelait conseil en communication, conseil en management, y compris conseil en stratégie, ce qui m'amuse beaucoup. Mais les gens n'utilisaient pas le mot.
Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ?
Je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets. Par certains aspects, je crois que je suis hindouiste. C'est-à-dire que c'est le karma. Les choses se sont faites ainsi. Et je ne suis pas quelqu'un qui éprouve des regrets, ni des remords. J'avance.
Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ?
Le plaisir que j'éprouve à faire ce métier. C'est un métier difficile, mais je crois que c'est un métier passionnant pour qui est curieux, pour qui a envie de rencontre, pour qui a envie d'y être sans y être. C'est cela aussi, cette idée de marginal séquente. Nous ne sommes pas à l'intérieur des entreprises, mais nous savons parfois ce qui s'y passe, pas trop mal d'ailleurs. C'est un beau métier.
Alors Catherine, comme d'habitude, avant l'enregistrement, je t'ai invité à choisir une chanson qui incarne symboliquement ton propre parcours. Je te propose d'en écouter un extrait à présent et tu nous expliqueras ton choix juste après.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs.
Nous écoutons « Je suis snob », qui est une chanson écrite en 1954, dont les paroles sont de Boris Vian et la musique de Jimmy Walter. La chanson est parue l'année suivante dans le deuxième 45 tours de Boris Vian, « Chanson possible ». Pourquoi ce choix, Catherine ?
Pour plusieurs raisons. La première est que j'adore Boris Vian, j'adore toutes les chansons de Boris Vian. La deuxième, elle illustre mon parcours, en tout cas, la conviction qu'on peut faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc, j'adore l'humour de Vian. Puis la troisième et dernière raison, c'est que j'ai insisté à une certaine époque auprès de mon professeur de chant pour la chanter et j'ai échoué, lamentablement, parce qu'en fait, c'est très difficile de trouver une interprétation et je n'ai pas réussi.
Il y a un côté aussi désinvolte.
Alors, désinvolte, je pense que ça me correspond assez aussi.
Et un petit peu impertinent aussi.
Et un peu impertinent. Je déteste l'esprit sérieux. Et ce que j'aime chez Vian, c'est cette légèreté, cet humour, puis la langue de Vian.
Et qu'est-ce que ça dit de ton parcours ?
Ça dit de mon parcours que je n'ai rien programmé, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Et il se peut qu'à certains moments, une forme de snobisme m'ait aidé, c'est-à-dire le fait de dire « je viens travailler avec tel client, mais cela j'en veux pas », sans toujours prendre en compte des paramètres économiques afférents, par exemple.
À te côtoyer depuis quelques heures où on a préparé cet entretien, je ressens plus d'indépendance que de snobisme.
J'espère, en effet. Snob au sens, si tu veux, j'aime les palaces, j'adore prendre le thé dans les palaces quand c'est possible, et ça amuse parfois certains clients ou clientes.
Je te propose de clore notre entretien sur cette belle note d'indépendance. Merci beaucoup, Catherine.
Merci à toi, David.
Parcours de coach.
Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour rester informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos deux podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.
Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.